Dernier cours de ce cycle. Donc, je vais vous maintenant vous parler de couplage fort et d'application à ce qu'on comprend aujourd'hui de cette physique du pseudo-gap en couplage fort, donc avec plutôt les cuprates dopés au trou en toile de fond. Donc, dans un premier temps, ce que je voudrais faire, c'est vous donner un petit peu une vue d'ensemble très qualitative, absolument non technique, des méthodes numériques dont on dispose aujourd'hui pour comprendre ces problèmes, donc dans les régimes de couplage fort. Évidemment, ça va être assez superficiel, je vais y consacrer, une vingtaine de minutes ou une demi-heure. Et pour une vraie introduction plus en profondeur, je vous renvoie au séminaire associé au cycle de cours, donc celui de Fedor Simkovic sur le Monte-Carlo diagrammatique qui a eu lieu, celui de Thomas Schaeffer sur différentes méthodes et ses méthodes de diagnostic des fluctuations, dont je vais reparler un tout petit peu aujourd'hui, du 25 mai, et particulièrement les deux séminaires qui auront lieu jeudi prochain, 3 juin, qui seront plutôt du côté réseau de tenseurs, DMRG, et développement récent utilisant des méthodes qui couplent l'échantillonnage Monte-Carlo et les réseaux de tenseurs, donc ce qu'on appelle METS, et qui, je pense, complètent très bien ce cycle de cours. Et également, dans certaines cours des années précédentes, différentes introductions plus détaillées et séminaires sur ces méthodes numériques. Alors, sur ce dessin un peu cartoonesque, j'ai essayé de vous donner une idée de deux grandes classes de méthodes qui sont aujourd'hui très développées. Et essayer aussi de vous montrer, le but de ce slide, c'est de vous montrer où se situe le terrain pour des progrès et en particulier une rencontre possible entre ces deux grandes classes de méthodes. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une méthode numérique, ce n'est pas juste, on a une idée de pure mathématique ou d'algorithmique qu'on applique sur l'ordinateur. Il y a, en général, derrière une approche computationnelle, une idée physique, qui est, en fait, la base qui va nous permettre de construire un algorithme autour de cette idée physique. Et les deux grandes idées qui organisent, je dirais, ces deux grands types de méthodes, il s'agit dans un cas de la notion de localité spatiale et dans l'autre cas de la notion d'intrication, au sens de l'intrication en mécanique quantique, c'est-à-dire, en gros, pour le dire de manière simple, la manière dont une fonction d'onde diffère ou non d'un produit, d'une fonction produit d'état. Alors, parlons d'abord de cette première grande classe de méthodes dont le principe organisationnel, c'est la notion de localité spatiale. Donc, d'abord, dans quel régime de paramètres on peut s'attendre à ce qu'on ait une certaine forme de localité ? Bien sûr, c'est dans les régimes où les longueurs de corrélation, pour tous les ordres qui peuvent se développer dans le système, on en a vu plusieurs au cours de ce cycle. Il y a l'ordre de spin dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, mais dans les cours précédents, on a pas mal parlé de stripes et d'ordre de charge. Donc tout ça, ça définit des longueurs de corrélation. Et quand ces longueurs de corrélation sont faibles, eh bien on peut s'attendre à ce que toute la physique soit relativement locale en espace. Donc ça veut dire qu'on peut construire des approximations successives dans lesquelles on va par exemple supposer que les composantes de la self-énergie locale sont plus importantes que toutes les autres. Ça va naturellement nous conduire à l'approximation de champ moyen dynamique, et puis généraliser ces approches en incluant des composantes de la self-énergie à des échelles de distance de plus en plus grandes. Ça va être les extensions en cluster de DMFT, dont je vais parler un peu dans la suite de ce cours, enfin même pas mal dans la suite de ce cours. Mais enfin, disons, le principe organisationnel, c'est la localité, et pour que ces longueurs de corrélation soient faibles, il faut se placer typiquement dans des régimes de relativement haute température ou des régimes de grand dopage, ce genre de choses. Mais disons, si on raisonne dans ce plan couplage versus température, ces approches-là vont plutôt être des approches dans lesquelles on vient des hautes températures et on identifie graduellement les crossovers qui se produisent dans le système. C'est en tout cas une manière de voir les méthodes de type DMFT qu'on qu'on appelle maintenant souvent sous un terme plus général, plus générique, sont les méthodes d'embedding, de quantum embedding ou d'inclusion quantique. L'idée étant qu'on prend un petit système qu'on traite exactement, plongé de manière autocohérente dans un bain qui est le système entier. À l'opposé de ça, d'une certaine manière, il y a une autre classe de méthodes qui, originellement, sont des méthodes confinées à température nulle, donc confinées à l'état fondamental, même si la situation évolue rapidement aujourd'hui, vous le verrez dans un séminaire du 3 juin en particulier, et où le principe organisationnel, c'est plutôt l'intrication. La complexité d'un système quantique, c'est le fait que les fonctions d'onde à n corps peuvent être très différentes, très loin d'un produit de fonctions d'onde, donc avoir une forte intrication. Mais on a des raisons de penser que l'état fondamental et les premiers états excités ont des degrés d'intrication qui peuvent être relativement faibles, et donc on peut utiliser des méthodes intelligentes de représentation de ces fonctions d'onde en utilisant cette limite sur l'intrication. Et ça, c'est les méthodes de produit de ce qu'on appelle matrix product states, donc état produit de matrice, qui consiste à représenter la fonction d'onde sous une forme compacte, comme un produit de matrice, à réduire la taille de ces matrices pour faire un calcul donné, ce qu'on appelle la dimension de lien ou la bond dimension en anglais, et à faire converger le calcul en fonction de la bond dimension. Donc, l'esprit de ces méthodes, je pense que je l'ai repéré un peu ici, c'est de dire que si je regarde, par exemple, dans un modèle de Heisenberg, la composante de la fonction d'onde sur les différentes valeurs de SZ, eh bien, je peux approximer cet objet comme un produit de matrice. Vous voyez, ça, c'est un indice interne. Chacun de ces objets est une matrice qui dépend de cet état du spin local S, mais qui est une matrice de dimension, la bond dimension par bond dimension. Donc, il peut être représenté graphiquement par un tenseur de ce type. Et puis, on peut montrer que quand on augmente la taille de ces matrices, eh bien, on a une représentation fidèle et exacte de n'importe quelle fonction d'onde à n corps. Et je vous renvoie, sans vous en dire beaucoup plus, au séminaire de Miles Studenmayer de jeudi, qui vous donnera une introduction assez générale à ces méthodes-là. Alors, jusqu'à une date récente, ces méthodes de réseau de tenseurs ou de matrix product states et l'algorithme variationnel qui va avec, qui est le groupe dans la notion de la matrice densité, qui a été inventé par Steve White en 92, donc essentiellement la même année où les MFT1 étaient inventés, c'est à peu près le même moment. Originellement, cette méthode était confinée à température nulle. Et ça n'est que relativement récemment, disons au cours des peut-être 7-8 dernières années, que ces méthodes ont commencé à être étendues à température finie en combinant cette représentation compressée efficace des fonctions d'onde avec des méthodes d'échantillonnage Monte Carlo, ce qui a conduit par exemple, et il y a d'autres variantes, à cette méthode de Minimally Entangled Typical Thermal State, METS, dont vous entendrez parler dans le séminaire d'Alex Vitek le 3 juin. Et donc ça permet d'étendre ces méthodes à température finie. En même temps, en poursuivant ce type de méthode, en utilisant des entités, des clusters de plus en plus grands, on peut espérer aller à des températures de plus en plus basses. Et ça définit une sorte de programme de recherche qui est de faire se rencontrer ces deux types d'approches. Alors, soit les faire se rencontrer en arrivant à étudier le même système dans le même régime de paramètres, par exemple de température, par les deux types d'approches, en essayant de trouver un compromis, une température pas trop basse pour que ces méthodes marchent et pas trop haute pour que les méthodes de type METS marchent, encore que les méthodes de type METS sont assez faciles à étendre, même à haute température. C'est plutôt une question de taille de système. Mais disons, je considère un petit peu que le point de rencontre ou le handshake entre ces deux différentes classes de méthodes, c'est un petit peu là que se situent des développements intéressants du point de vue computationnel, enfin au moins certains développements intéressants du point de vue computationnel dans le domaine. Et il y a un certain nombre d'articles récents, vous entendrez parler d'un dans le séminaire de l'Alex Vitek jeudi, qui réalise d'une certaine manière ce handshake. On a également un article sur le réseau modèle Lubart sur le réseau triangulaire où on étudie vraiment le même système par les deux classes de méthodes. Alors, vous avez entendu aussi parler dans le cadre du séminaire de Fedor en particulier le 18 mai, vous avez aussi entendu parler d'une autre classe de méthodes qui utilise un autre principe organisationnel qui est plutôt de partir du régime de couplage faible et puis de faire un échantillonnage de la série diagrammatique. Donc c'est toutes ces méthodes de Monte-Carlo diagrammatique dont Fedor vous a parlé. Donc là, si vous voulez, c'est plutôt des méthodes qu'on pourrait voir comme ça dans ce plan. La limitation de ces méthodes, c'est plutôt d'arriver dans le régime. C'est deux choses. C'est d'une part d'arriver à calculer les termes de la série et surtout à la ressommer jusqu'à des températures suffisamment basses ou jusqu'à des couplages suffisamment forts. Et donc cette troisième classe de méthodes, elle donne également un point d'ancrage. C'est aussi une direction de développement très intéressante actuellement dans le domaine des méthodes computationnelles. Et qui, en fait, a pour terrain de jeu un petit peu justement le régime où on veut réaliser ce handshake. C'est pour ça que c'est intéressant. Voilà, alors je ne vais pas vous parler plus de ces méthodes de Monte-Carlo diagrammatique en détail maintenant, puisqu'elles ont été présentées par Fedor, mais en revanche, je vais utiliser certains résultats dans la suite du séminaire. Alors vous voyez qu'on a donc tous ces différents types d'approches. Il y a d'autres approches aussi. Je devrais également vous parler des méthodes de Monte-Carlo en champ auxiliaire qui cherche à circonvenir le problème du signe moins fermionique des méthodes déterminantales habituelles en projetant sur les configurations de signes positifs qui ont été beaucoup développées et qui sont beaucoup développées par des gens comme Shi-Wei Zhang ou Miguel Morales au CCQ. Et tout ça a conduit à l'émergence depuis quelques années d'articles dans lesquels un effort est fait pour comparer ces méthodes entre elles et surtout essayer de donner des résultats précis avec des barres d'erreur contrôlées qui puissent établir la physique de ces modèles, alors que ce soit Hubbard ou d'autres choses, dans des régimes de paramètres où on peut les étudier avec plus d'une méthode, de manière à ne plus revenir sur ma méthode donne ci, ta méthode donne ça, et elle ne donne pas la même chose, et voilà. Voilà, donc c'est un peu cet esprit des multi-messenger collaborations. Et il y en a plusieurs déjà, cette liste est tout à fait non limitative. Je vais vous donner quelques petits exemples. Un article un peu pionnier dans ce domaine, c'est celui qui a été publié il y a un peu plus de 5 ans dans le contexte de la Simons Many Electron Collaboration, qui était surtout des résultats sur les énergies du système. Il y a un article récent sur les ordres de stripes et d'ondes de densité de spin incommensurable qui compare les méthodes Monte Carlo déterminantales et les méthodes DMRG. Il y a un article encore plus récent dont je vous parlerai un peu à la fin de ce cours qui attaque la question de l'existence d'une phase supraconductrice dans le modèle de Hubbard avec T' égale 0. Qui utilisent des méthodes de DMRG et des méthodes d'AFQMC en particulier, et d'autres méthodes aussi. Il y a un article très intéressant qui est paru cette année, déjà l'année dernière, 2020, qui commence à aller au-delà de modèles simples, puisqu'il s'agit d'un vrai matériau, ou tout au moins d'un matériau un peu idéal, mais qui est vrai, fait de vrais atomes, qui est l'étude d'une chaîne d'atomes d'hydrogène unidimensionnelle, comme matériau modèle, si vous voulez, mais avec toute la complexité des différentes orbitales, etc., et dans lequel les différentes phases du système, quand on rapproche les atomes les uns des autres, il y a des phases dimérisées, des phases isolantes, etc., ces phases sont comparées entre elles, les diagrammes de phases de ce système est établi par la combinaison de différentes méthodes, AFQMC, DMRG, etc., etc. Et puis cet article dont je vous ai abondamment parlé dans le cours précédent. Donc ça, c'est juste pour dire que le domaine de la problème à n corps computationnel évolue beaucoup actuellement, et en particulier avec cet effort de de combiner des méthodes, de les comparer entre elles, mais aussi, c'est plus intéressant encore, d'avoir des sortes d'hybridations entre les méthodes. Par exemple, pour vous donner deux exemples, ces méthodes de Metz, dont vous entendrez parler jeudi, utilisent des idées de Monte Carlo sampling dans le contexte des réseaux de tenseurs, ou, pour donner un autre exemple, on développe actuellement des solvers pour DMFT qui sont basés sur les idées des réseaux de tenseurs et même sur le Metz à température finie, et qui sont assez prometteuses. Voilà. Ça appartenait plutôt au cours d'avant. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est revenir au problème physique qui nous occupe, et qui est la physique du pseudo-gap dans le modèle de Hubbard, mais plutôt dans le régime de couplage fort, donc quand il n'y a pas forcément une longueur de corrélation magnétique très grande. Et là, je pense que les progrès initiaux dans ce domaine, c'est assez juste de dire qu'ils sont partis de la théorie de champ moyen dynamique et de ses extensions en cluster, qui sont essentielles dans ce contexte. Et donc, je vais vous donner un petit peu une introduction très rapide à l'esprit général de ces méthodes, et puis ensuite vous montrer des résultats. Alors, je ne vais pas vous faire une introduction détaillée à la méthode de champ moyen dynamique, je vais juste vous donner les idées. Vous pouvez vous référer au cours d'il y a deux ans, qui était complètement consacré à cette méthode. Donc l'idée générale de cette méthode, elle est finalement similaire à l'idée du champ moyen en physique statistique. Hein. Elle consiste à remplacer un système par un système équivalent. Donc on a un réseau d'atomes. Vous pouvez penser à ça, si c'est le modèle de Hubbard, chaque site est un de ces atomes de Hubbard à un niveau, dont j'ai parlé dans le premier cours. Et vous remplacez ce système sur réseau par un système qui est constitué, dans le cas le plus simple, d'un seul site, mais on peut étendre ça, comme vous allez le voir, couplé à un milieu effectif de manière autocohérente. Alors, c'est exactement ce qu'on fait en physique statistique. En physique statistique, quand on traite le modèle d'Ising, on remplace ce problème compliqué sur réseau par un problème d'un seul site, couplé à un champ local, et puis on écrit une relation d'autocohérence qui relie le champ local aux aimantations des sites voisins, donc cette relation d'autocohérence ici. Et en combinant ces deux choses, on arrive aux équations de champ moyen habituelles. Alors ici, c'est très similaire, à part que le problème effectif à un site qui décrit le couplage de l'atome et du bas est beaucoup plus complexe. C'est un problème qui, alors je n'ai même pas écrit les équations ici, c'est un problème qui décrit un atome avec toutes ses interactions, donc en l'occurrence dans le modèle de Hubbard, le U local, qui est couplé à un bas effectif, et il y a une amplitude de saut d'électrons entre le bas effectif et l'atome qui est ajustée de manière autocohérente. C'est ça le champ moyen dynamique, c'est une fonction de la fréquence ou du temps, et cette fonction, si vous voulez, est une sorte de généralisation quantique du champ de Weiss en mécanique statistique. L'observable de base dans cette théorie n'étant pas juste un nombre comme l'aimantation, mais toute une fonction de la fréquence, en l'occurrence la fonction de Green ou la fonction spectrale locale. Voilà. Donc c'est vraiment une théorie d'un atome ou un amas d'atomes dans un bain autocohérent, si vous voulez. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le principe organisationnel de ces méthodes, c'est la localité. C'est-à-dire qu'on va approcher la self-énergie du réseau comme étant un objet local, donc ça c'est dans la théorie de champ moyen dynamique à un site, on va voir les généralisations non locales dans un instant, et dire que cette self-énergie, eh bien, c'est la self-énergie de l'atome dans son bain, ce qui nous donne une relation d'autocohérence. Donc il nous faut résoudre ce problème d'un atome dans un bain, dans un certain champ moyen dynamique, calculer la fonction de Green locale de ce problème, c'est là où on a besoin d'algorithmes, et puis ensuite, connaissant cette fonction, calculer la self-énergie et recalculer le champ moyen dynamique et itérer cette boucle, qui est une boucle d'autocohérence, qui nous permet de trouver la solution du problème. Une fois qu'on a convergé cette boucle, on peut tout calculer. On peut calculer la self-énergie du problème, on peut calculer le vertex, qui est une fonction locale, et on peut calculer la fonction de Green sur le réseau, qui est une fonction du moment, hein, et les fonctions de réponse, de spin ou de charge, ou de tout ce que vous voulez, qui sont aussi des fonctions du moment et de la fréquence. Voilà. Donc finalement, si vous voulez, tout ça s'inscrit dans un cadre qui est assez comparable à d'autres approches où on a une observable, un choix d'observable, un système représentatif et une relation d'autocohérence. J'ai essayé de présenter le champ moyen de Hartree même de cette manière-là dans le cours précédent. Vous vous souvenez que j'ai fait un parallèle avec la fonctionnelle de densité. Ben, finalement, ici, il y a aussi un parallèle tout à fait similaire où notre observable local, c'est une fonction de la fréquence et du site considéré, qui est un peu l'analogue de la densité locale ou de l'aimantation locale en champ moyen habituel. On a un système représentatif équivalent qui, dans le cas du champ moyen, est un spin dans un champ extérieur. Dans le cas de la fonctionnelle de densité, c'est des électrons dans un potentiel de Kohn-Cham. Et dans le cas des MFT, bien, c'est un atome dans un bain autocohérent. Et puis on a une notion de champ de Weiss généralisé. Il y a le champ de Weiss dans le champ moyen habituel, le potentiel de Kohn-Cham en DFT et le champ moyen dynamique dans la théorie du champ moyen dynamique. Tout ça peut se construire comme des fonctionnels ou d'énergie libre qui dépendent de l'observable considéré. Donc ça met un peu tout ça dans un cadre conceptuel similaire. Alors, quand on parle de système où il commence à y avoir des corrélations spatiales, évidemment, le champ moyen dynamique à un site est complètement insuffisant, puisque quand on baisse la température, ces corrélations spatiales se développent. C'est elles qui vont créer la physique, en particulier du pseudo-gap à deux dimensions. Donc, il est clair qu'il faut aller au-delà de l'approximation locale. Et ça, c'est tout un ensemble d'approches qui s'est développé depuis plus d'une vingtaine d'années et qui s'appelle maintenant les méthodes, enfin, qui ont tendance à s'appeler les méthodes d'inclusion quantique ou les quantum embedding methods, qui ont également pas mal de succès en chimie quantique, mais dont on peut voir un petit peu des MFT comme la méthode précurseur de toutes ces méthodes. Donc comment est-ce qu'on étend ça au-delà de la stricte localité spatiale? Il y a une manière de faire ça, alors il y a plusieurs manières de faire. On peut soit utiliser une image dans l'espace réel, donc ça c'est plutôt l'image cluster ou cellulaire des MFT, et puis on peut aussi regarder ça plutôt dans l'espace réciproque, c'est ce qu'on appelle la Dynamical Cluster Approximation, DCA. Ici, sur ce slide, j'ai plutôt illustré la méthode DCA, mais l'esprit est un peu similaire. Donc, dans le cadre de la méthode DCA, ce qu'on fait, c'est qu'on construit, on patch la zone de Brillouin en différentes régions. Donc, on définit des sous-régions de la zone de Brillouin. Donc, ça serait le champ moyen dynamique habituel consisterait à dire que la self-énergie est uniforme dans toute la zone de Brillouin. Ici, c'est un DCA à deux patchs, où on construit un patch autour de zéro et un patch associé plutôt à pipi. Ça serait un système dans lequel on patch la zone de Brillouin, une région autour de zéro, une région autour des nœuds, une région autour de pipi, une région autour des antinœuds, pi 0 et 0 pi. Et vous voyez que les moments qui sont, les impulsions qui sont signalées par des points rouges ici, ils constituent les moments d'un cluster de taille finie avec des conditions au bord périodiques, mais de taille finie, avec un nombre restreint de sites. En l'occurrence, ici, deux sites, parce qu'il y a deux points, quatre sites, et ici, huit sites, et ici, 16 sites. Et donc, on résout un cluster dans un bain qui, par exemple, dans ce cas-là, aurait huit sites. On calcule les self-énergies de ce cluster, donc qui vont avoir une valeur différente pour les différents moments choisis ici. Donc il y aura une self-énergie qui va être associée à la région centrale jaune, une self-énergie associée à la région nodale, une self-énergie associée à la région antinodale. L'approximation, c'est que cette self-énergie, elle est constante à l'intérieur de son patch, et vous voyez que c'est une interpolation assez grossière de la dépendance en impulsion de la self-énergie, puisqu'elle est discontinue d'un patch à l'autre, self-énergie approximée, si vous voulez. Si la self-énergie, je ne sais pas moi, une forme comme ça, en fonction de K, je dessine n'importe quoi, hein, eh bien, vous approximez cette self-énergie par une valeur ici, une valeur ici, une valeur là, une valeur là, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, le but de cette approche, c'est de calculer les valeurs de cette interpolation par une fonction créneau. Évidemment, vous voyez tout de suite la limitation qui est que pour obtenir une bonne résolution en K, eh bien, il faut raffiner cette grille et donc avoir des clusters de plus en plus grands. Et à un moment, on est limité, en particulier par les algorithmes ce qui sont souvent les algorithmes Monte Carlo pour résoudre ce problème et qui sont confrontés au problème du filement fermionique également dans ce contexte. Voilà un peu l'esprit général de la méthode DCA. Alors, en particulier dans le contexte qui nous intéresse, c'est-à-dire le modèle de Hubbard bidimensionnel, ce patching-là, il est pas mal parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'indications à la fois expérimentales mais aussi théoriques pour lesquelles la physique aux nœuds et aux antinœuds est assez différente. Et vous voyez que ce cluster à 8 sites, il laisse la liberté au système d'avoir un comportement différent aux antinœuds, aux nœuds et aux antinœuds, et également dans ces deux patchs-là. Donc, on peut espérer que ce ne soit, soit pas une mauvaise approximation déjà, au moins quand la longueur de corrélation magnétique n'est pas trop grande. Dans la suite, je vais vous montrer qu'il y a un certain nombre de régimes de paramètres où, en fait, on peut converger ces approximations dans la taille du cluster. Et on peut également montrer que le résultat qu'on obtient après extrapolation à la taille du cluster coïncide avec le résultat d'autres algorithmes comme le Monte Carlo diagrammatique. Mais aujourd'hui, en 2021, le type de paramètre où on peut faire ça est quand même relativement restreint. Bon, alors, c'est impossible de citer tous les travaux et tous les groupes qui ont travaillé sur ces méthodes depuis 20 ans. J'en cite quelques-uns. Le groupe de Rutgers, Marcello qui est là, était un pionnier de ces méthodes quand il était à Rutgers, le groupe de Sherbrooke, le groupe qui était avant dans l'Ohio, puis à Baton Rouge, Jarrell, qui est malheureusement disparu il y a quelques années, le groupe d'Emmanuel Gull dans le Michigan, d'Andy Millis à Columbia, ici Paris, Saclay, Orsay, à Rome, à Stuttgart, enfin, à Tokyo, Masai Mada, il y a beaucoup de groupes qui ont travaillé dans ce domaine. Et je n'ai évidemment pas le temps de passer en revue tous ces résultats. Ce que je veux faire, c'est essayer de vous distiller un petit peu le message essentiel qui sort de ces méthodes et aussi, dans l'esprit de ce que je disais tout à l'heure, de tester, de mettre le test sur ces méthodes de cluster embedding, de cluster DMFT, par rapport à d'autres méthodes quand c'est possible. Bien, alors, avant de faire ça, je voudrais passer quand même une dizaine de minutes à vous rappeler un petit peu la phénoménologie du pseudo-gap en couplage fort, donc pour les cuprates dopés en trous. Donc, je vais revenir un petit peu à des expériences pour que vous ayez une idée un peu claire des questions qu'on veut poser, assez rapidement. Donc, je vous rappelle le diagramme des phases des cuprates, vous l'avez vu de manière plus réaliste tout à l'heure, mais maintenant, faites attention que le dopage en trou est vers la droite, d'accord ? Alors il était vers la gauche, je crois. Donc on a vu tout à l'heure les cuprates dopés en électrons avec cette phase magnétique très étendue. Maintenant on va s'intéresser plutôt aux applications aux cuprates dopés en trou, encore une fois, à cause de la différence chimique de ces deux matériaux, classes de matériaux, ces cuprates sont en régime de couplage beaucoup plus fort. Et donc vous voyez ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que la phase antiferromagnétique s'écroule très vite. Elle disparaît à des dopages faibles. Ici, il y a tout un zoo de phases assez complexes, en particulier dans les LSCO, il y a des phases vert de spin, dont je parlerai un petit peu l'année prochaine dans un autre contexte. À plus basse température ici, il y a des phases ondes de densité de charge qui ont été l'objet de beaucoup d'études ces dernières années. Il y a évidemment le fameux dôme supra. Mais le phénomène qui est particulièrement frappant, c'est qu'il y a une échelle d'énergie qui est relativement haute, qui est beaucoup plus haute que toutes ces instabilités de basse température, qui est l'ouverture d'un pseudo-gap. Et on a la chance d'avoir dans la salle un des découvreurs de ce phénomène, Henri Alloul, qui est là. Et je vais vous montrer quelles sont les signatures expérimentales de ce pseudo-gap. Et puis ici, il y a un régime au-dessus de la température qu'on appelle T-star de ce pseudo-gap qui décroît avec le dopage. Il y a un régime ici qui est un régime qu'on appelle de métal étrange où la résistivité du système est linéaire en fonction de la température, n'obéit pas aux règles du liquide de Fermi, même si à basse température, ça peut être un bon métal. L'existence de ce métal étrange est une des questions encore assez ouvertes dans ce domaine. La physique des métaux étranges fera l'objet du cours de l'an prochain. Je vous en parlerai un peu à la fin. Voilà, donc quels sont les grands éléments de la phénoménologie du pseudo-gap quand on traverse cette ligne noire. Donc la première chose, c'est que le pseudo-gap, comme son nom l'indique, c'est une suppression partielle, d'où le nom pseudo, des excitations de basse énergie, c'est-à-dire il y a un déficit de densité d'état ou de densité d'état excité à basse énergie, et on voit ce déficit dans plein de sondes expérimentales, thermodynamiques, spectroscopiques. Historiquement, la première découverte, ce n'est pas celle-là, c'est plutôt les sondes RMN. Donc c'est le fait que quand on mesure la susceptibilité magnétique, le night shift en l'occurrence, comprenons-le simplement en termes simples comme la susceptibilité magnétique, dans un métal, on s'attend à avoir une loi de Pauli, donc constante, en fonction de la température, et bien là, dans les cuprates sous-dopés, ce qu'on voit, c'est au lieu d'avoir une constante, on a quelque chose qui, à basse température, s'écroule avec la température. Voilà. Donc j'ai extrait ce slide, cette figure d'un célèbre article de Maria Lulono et Philippe Mendels, qui rapportait ce phénomène dès 89. Donc cet écroulement de la susceptibilité magnétique conduit à la question de savoir finalement, est-ce que tous les états dans la zone de Brillouin, près de la surface de Fermi, perdent de la densité d'état, ou est-ce que c'est concentré dans certaines régions de la zone de Brillouin? Et ça, c'est quelque chose qui a été magnifiquement clarifié par la photoémission résolue en angle. Je crois que j'ai déjà montré ces slides dans un des cours précédents. Voilà des spectres de photoémission résolue en angle pour bismuth 2212. Ça, c'est la surface de Fermi à laquelle vous attendez. C'est le quart de la zone de Brillouin, les nœuds, les antinœuds. Vous voyez qu'au nœud, le point bleu ici, on a une belle quasi-particule. Et en particulier, comme j'ai insisté, je crois, dans un cours précédent, le leading edge, c'est-à-dire l'endroit où ça coupe zéro ici, l'endroit où ça coupe zéro est à peu près au leading edge du spectre. En revanche, si vous regardez aux antinœuds, eh bien, clairement, à zéro, le spectre est très petit, et puis en fait, le leading edge, qui est le point d'inflexion ici, est décalé par rapport à zéro. Donc non seulement le spectre est beaucoup plus mou, non seulement il n'y a pas vraiment de bonnes quasi-particules aux antinœuds, mais en plus, clairement, il y a une échelle d'énergie caractéristique que vous pouvez interpréter comme un pseudo-gap, qui est la différence entre zéro et la position du leading edge ici. Ça définit une échelle d'énergie, hein, qui est la tendance au système à ouvrir un gap près des antinœuds. Donc la photoémission résolue en angle a clairement révélé que cette physique était associée aux antinœuds, et ça se traduit par le fait que si vous regardez les contours d'intensité de la photoémission dans le quart de la zone de Brillouin ici, en pratique, vous ne voyez pas une surface de Fermi complète. Ce que vous voyez, c'est les fameux arcs de Fermi qui sont concentrés sur la région des nœuds et avec une suppression dans la région des antinœuds. Et ça pose vraiment une question fondamentale qui est de savoir qu'est-ce qui va se passer, que va devenir l'état de ce système quand on refroidit et qu'on... On va aller vers... Il doit se passer quelque chose, parce qu'on ne peut pas avoir une surface de Fermi qui est juste des segments discontinus perdus dans l'espace K. Donc, qu'est-ce qui doit se passer? En réalité, dans le vrai système, ce qui se passe, c'est qu'il devient supra. Donc, il entre une autre phase ordonnée. Et la question qu'on peut se poser, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qui se passerait dans l'état normal si on supprimait la supraconductivité? Donc, on peut faire ça dans certains cuprates en appliquant un champ magnétique fort. Et ce qu'on observe, c'est que la surface de Fermi est reconstruite en réalité. Donc, je vais vous montrer des expériences très récentes. Ça, ce n'est pas encore publié. Ce sont des expériences de magnétorésistance, dépendance angulaire de la magnétorésistance, angular dependent magnétorésistance, groupe de Louis Taillefer, qui montre, sur une évidence directe, que, effectivement, si je regarde un dopage qui est très proche de celui du dopage critique où le pseudo-gap disparaît, que je vais appeler P-star dans la suite de ce cours, donc pour P juste en dessous de P-star, on a une reconstruction de la surface de Fermi, on voit une dépendance de la magnétorésistance angulaire qui change absolument radicalement, comme vous voyez ici, quand on est au-dessus de P-star et en dessous de P-star. Et le nouveau pattern de magnétorésistance angulaire ici s'interprète bien par une reconstruction de la surface de Fermi en poche de trou, tout à fait similaire à celle qu'on obtiendrait par une densité de spin commensurable. Mais le point remarquable et la question fondamentale, c'est qu'on est dans un régime où il n'y a pas d'ordre magnétique à longue portée. Donc, clairement, il y a la possibilité que le système reconstruise sa surface de Fermi sans pour autant que ce soit dû à un ordre antiferromagnétique à longue portée. Et on peut dire sans trop d'hésitation que ça, c'est vraiment une des deux questions fondamentales des cuprates, qui est comment est-ce qu'on peut avoir une reconstruction de la surface de Fermi dans un régime où, apparemment, il n'y a pas de brisure de symétrie, de spin ou de translation qui donnerait une explication simple de champ moyen, disons, à la reconstruction de cette surface de Fermi. Donc c'est ça la signification au-delà des cuprates eux-mêmes, disons, la question conceptuelle importante qui est derrière ça. L'autre question conceptuelle importante, c'est peut-être les deux questions fondamentales des cuprates, c'est au-dessus du pseudo-gap, en particulier au vertical du dopage optimal, on a ce régime de métal étrange, c'est-à-dire ce régime où on a une résistivité linéaire en T, qui maintenant s'appelle quelquefois le métal planckien. Quelle est l'origine de ce phénomène? Quelle est l'origine de cette résistivité linéaire? Donc ça, c'est quelque chose dont je ne vais pas parler dans le cours d'aujourd'hui, mais en revanche, je consacrerai le cycle de cours de l'an prochain à ces métaux planckiens, et en particulier à leur lien avec ce qu'on appelle les modèles SYK, Sajdiafié, Kitaïev, qui ont donné une théorie, enfin ces modèles donnant une théorie de ces métaux planckiens et du transport en l'absence de quasi-particules. Voilà. Donc j'ai essayé de résumer sur ce slide un petit peu les deux questions peut-être les plus fondamentales que pose la physique des cuprates supraconducteurs. Il faut insister sur le fait que ce n'est pas limité aux cuprates, en particulier l'existence d'un régime de métal planckien ou métal étrange avec une résistivité linéaire en T, c'est quelque chose qui est maintenant assez omniprésent dans la physique des systèmes twistés ou des systèmes de Moiré, que ce soit les bicouches de graphène twistées ou que ce soit les dicalcogénures de métaux de transition ou les bicouches de dicalcogénures de métaux de transition, on voit des phénomènes de ce type quand on change l'angle de twist. Et donc c'est une question qui n'est pas une vieille question, c'est une question très moderne pour toute une série de matériaux d'intérêt actuel. Bon, donc ça c'était mes 10 minutes sur la phénoménologie du pseudo-gap, sans entrer trop dans les détails, comme vous pouvez le voir. Et maintenant je voudrais revenir à la théorie et essayer de vous donner une idée de qu'est-ce que les méthodes de cluster des MFT nous ont appris sur cette physique. Alors ça remonte déjà à une vingtaine d'années, où les premiers calculs de cluster des MFT ont donné, dès le début des années 2000, une claire évidence pour l'existence d'un pseudo-gap dans le modèle de Hubbard-Dopéran en trou. Et maintenant, on le sait, dans un régime où la longueur de corrélation magnétique n'est pas nécessairement grande, elle peut être juste de quelques mailles du réseau. Voilà peut-être un des premiers articles, et on a aussi la chance que le premier auteur de cet article soit dans la salle, Marcello Civelli, dans le groupe de Rutgers à l'époque, où avec Massimo Capone, Olivier Parcollet, Sam Macancharla et Gabi Kotliar, ils avaient montré que quand on faisait un calcul cluster d'MFT à 4 sites, à l'époque le cluster c'était 4 sites, eh bien ce qu'on voyait, quand on regardait par exemple le régime de bas dopage, eh bien, c'était effectivement qu'il y avait des quasi-particules intenses près des nœuds et puis des quasi-particules largement détruites près des antinœuds. Et vous voyez comment ces quasi-particules nodales prennent de la vigueur quand on dope plus en trou. Donc on peut dire que d'une certaine manière, si je compare un petit peu au diagramme de phase de single side des MFT, cette région, elle vit dans le régime métallique, et puis cette région, elle vit dans le régime incohérent aussi. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, les premières évidences qu'il y a effectivement un pseudo-gap en couplage fort dans le modèle de Hubbard, à faible dopage en trou. Et depuis, on a fait pas mal de progrès sur la compréhension de ce problème, et c'est ça dont je voudrais vous parler un petit peu aujourd'hui. Alors, un petit peu après, il y a eu des travaux qui ont essayé de donner une image un peu générique de ce qui se passait. Et ça, c'est juste un peu une représentation des différents régimes, de ce qu'on trouve dans les méthodes DCA. Donc en fait, ces calculs que je vais vous montrer ont été faits en comparant entre eux des résultats. Alors, je vous ai montré tout à l'heure ces différents... Excusez-moi, je reviens en arrière. Je vous ai montré ces différents clusters. Donc, en fait, je vais vous montrer les résultats d'un article qu'on avait fait avec Emmanuel Gull, Andy Millis et Michel Ferrero et Coworkers, dans lequel on comparait les résultats de clusters des MFT à 4 sites, 8 sites et 16 sites... DCA, pardon, à 4 sites, 8 sites et 16 sites. Donc, avec ce patching de la zone de Brillouin. Et donc, de manière un peu générique, ce qui se passe qualitativement dans ces calculs, c'est que si je prends maintenant un modèle de Hubbard avec un T', de sorte que j'ai une asymétrie entre le dopage en trou et le dopage en électron, hein, vous vous souvenez que quand T' égale 0, il y a une symétrie particule trou, voire le cours 1, mais quand T' est non nul, cette symétrie, elle change T' au moins T'. Donc, si j'ai un T' fixé à une certaine valeur, le diagramme de phase n'est plus symétrique entre particule et trou. Hein. Donc là, on compare le régime dopé en électron et le régime dopé en trou à U fixé. Donc ce n'est pas forcément réaliste pour comparer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les cuprates dopés en électron et les cuprates dopés en trou, puisqu'ils n'ont pas la même valeur de U. D'accord ? Mais bon, faisons cette comparaison. Donc ce qu'on trouvait dans cet article, c'est que quand vous dopiez en trou, ce que, vous voyez, la densité va de 1 à 0,6 ici, on dope en trou, eh bien en fait... évidemment, à grand dopage, on a un liquide de Fermi, un isotrope sur la surface de Fermi, donc quelque chose où la solution single-side MFT serait suffisante. Puis quand je me rapproche du demi-remplissage, il y a un régime où on commence à avoir une différenciation entre les nœuds et les antinœuds, donc c'est ce qu'on voyait déjà dans le transparent précédent du travail de Marcello Civelli. Et puis quand on se rapprochait encore plus de demi-remplissage, il y avait une phase où la région antinodale était vraiment gapée avec une incompressibilité aux antinœuds, et puis la région nodale était métallique. En revanche, quand on dopait en électrons, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait aussi une... évidemment, il y a un liquide de Fermi isotrope à grand dopage. Près du demi-remplissage, il y avait un régime différencié, mais pour les paramètres étudiés dans cet article, on ne voyait pas ce régime où on a une sélectivité en patch avec une incompressibilité aux antinœuds. Donc, il y a, déjà même à U donné, il y a une asymétrie entre particules et trous dans ce système. Alors, voilà un résultat qui illustre cette notion d'incompressibilité aux antinœuds. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la densité qui est dans chacun des patchs de la zone de Brillouin. Donc, ici, c'est la densité totale la densité totale n'est pas représentée ici, excusez-moi. La densité du patch nodal en rouge et la densité du patch antinodal en bleu. Vous voyez, ça c'est pi sur 2, pi sur 2, ça c'est pi 0 en bleu. Et donc vous voyez que le système a un gap. Donc un gap, ça se manifeste comme un plateau dans N versus mu. Hein. Donc vous voyez que le système a un gap qui est défini par ces deux flèches-là. Donc ça, c'est vraiment l'isolant de Mott, hein, où le système a un gap. Et vous voyez que le patch nodal, il commence à devenir métallique, c'est-à-dire compressible, avant le patch antinodal. Donc là, on a un régime intermédiaire, ici. Ça, c'est des calculs à 16 sites, donc quand même pour un assez gros cluster, évidemment dans son bain autocohérent, hein, c'est de la DCA autocohérente. Vous voyez qu'ici, on a un régime où le système est métallique, parce que le patch nodal est métallique, mais le patch antinodal, lui, continue à être incompressible. Donc on a véritablement, dans ce système qui est discrétisé avec un cluster, on a véritablement une image du régime pseudo-gap dans lequel le patch antinodal est carrément gapé, carrément incompressible. Voilà. Alors si on regarde les choses maintenant en fonction de la température, plutôt, ça c'était à température fixée, basse, si on regarde les choses en fonction de la température, il y a un diagnostic très simple de l'existence du pseudo-gap. Donc ça, c'est des résultats qui ont été obtenus par Wei Wu, qui était postdoc au Collège de France il y a quelques années, en DCA 8 sites, en fonction de la température, avec une certaine valeur de T'. Et vous voyez qu'on est à U sur T égale 7. Donc on est quand même dans un régime déjà de couplage beaucoup plus fort que celui du cours de tout à l'heure, où U valait 2. Donc vous voyez, ce qu'on voit ici, c'est que ça, c'est l'estimateur, disons, de la densité d'état aux antinœuds. la fonction spectrale aux antineux. Donc à grand dopage, ici 15%, eh bien, cette densité d'état croît, puis elle finira par saturer à basse température, donc régime typiquement métallique. En revanche, à bas dopage, ce qui se passe, c'est qu'elle croît un peu, et puis finalement, elle atteint un testar, et puis elle redécroît. Finalement, cette courbe, elle fait beaucoup penser à la courbe expérimentale du night shift, hein. Et vous verrez après, tout à l'heure, des calculs explicites de la susceptibilité magnétique avec ce maximum caractéristique. Et ce que vous voyez aussi ici, c'est que ce testar, eh bien, il décroît. Donc ça, si vous voulez, c'est la manière de diagnostiquer l'échelle de ce crossover testar. C'est simplement le maximum de cette courbe. Et vous voyez que ce maximum, il décroît quand on augmente le dopage. Donc c'est cette ligne qui chute quand on augmente le dopage. Donc, tout ça semble assez cohérent avec même la phénoménologie de tout à l'heure. Alors en fait, on peut interroger un petit peu les calculs numériques en essayant de comprendre d'où vient la physique qui est sous-jacente. Est-ce que ça se passe dans le canal de spin, dans le canal de charge, etc. Et je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. On en a déjà entendu parler dans le séminaire de Thomas Schaeffer qui montrait comment on pouvait faire un diagnostic de fluctuation de ces calculs. Mais on peut faire d'autres choses aussi, et ça c'est quelque chose qu'on avait fait avec Michel Ferrero, dans lequel on regardait dans le contexte du calcul Monte Carlo quels étaient les états du cluster qui dominaient la fonction de partition. Et ce qu'on voit, c'est que dans le régime de bas dopage où il y a un pseudo-gap, les états du cluster qui dominent la fonction de partition, c'est les états singulets. Donc on a apparié les spins en états singulets par le super-échange. Vous voyez, cet état singulet là, c'était juste du cluster des MFT deux sites, donc avec juste un dimère. C'est cet état singulet sur le dimère qui domine. L'état immédiatement voisin, bah, c'est tout simplement l'état où il y a un trou. Et donc à bas dopage, en fait, on a un modèle effectif dans lequel on peut se représenter le système comme une soupe de dimères dans lequel on a des trous qui se promènent. C'est un petit peu une image comme celle de la resonating valence bond dopé. Il y a d'ailleurs des modèles effectifs qui ont été construits dans ce sens, un peu sur la base de ces résultats numériques. Puis quand on augmente le dopage, eh bien vous voyez que l'état singulet devient moins important que l'état dopé, et donc ça c'est plutôt le régime de liquide de Fermi habituel. Donc on a déjà, à partir de ces histogrammes d'état, l'idée que c'est bien l'existence de singulets dû au couplage de super-échange qui est responsable du pseudo-gap. Vous verrez que dans le diagnostic de fluctuation, c'est encore beaucoup plus clair. Bon, alors tout ça, c'est du DCA ou du cluster des MFT. Donc on pourrait dire, bon, finalement, vous êtes limité en taille de cluster. Est-ce que vous savez vraiment que cette physique est bien celle du système à la limite thermodynamique? Et donc, il y a eu des progrès récents sur ce sujet. Donc ce qui vient maintenant illustre le thème général du cours qui est modèle de Hubbard de progrès récents. On a pu, dans certains régimes de paramètres, réaliser ce handshake entre des méthodes de Monte Carlo diagrammatique directes sur le réseau et ces méthodes de DCA ou de cluster DMFT extrapolées en taille de cluster, donc à la limite thermodynamique pour la taille du cluster. Donc ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on ne peut pas faire dans beaucoup de régimes de paramètres, hein, il faut quand même être réaliste et honnête. Mais enfin, on peut trouver un régime intéressant, et en poussant les algorithmes et le développement des méthodes au maximum, on peut quand même trouver un régime où on peut le faire. Il n'y a pas de secret. En fait, c'est une bonne idée de se placer dans un régime qui est un peu au voisinage du maximum du dôme de TNL versus U, qui est un dôme de champ moyen, d'accord, à 2D, mais enfin qui vous définit quand même la région où les corrélations magnétiques sont les plus fortes, pour avoir une chance. Donc c'est ça qu'on a fait, on a astucieusement choisi cette valeur de U. C'est vraiment le premier article qui réalise ça, donc il faut pardonner le choix d'un régime de paramètres spécifiques pour que les choses marchent, et une valeur de T' assez réaliste pour les cuprates et assez grande, comme vous voyez ici, et puis un dopage très petit, choisi aussi pour essayer d'avoir un testar le plus haut possible. Bon, donc en optimisant un peu tout ça, on arrive à réaliser cette chose que les méthodes de Monte Carlo diagrammatique, on peut les faire marcher en convergeant la série. Donc, je vous renvoie au séminaire de Fedor. Et puis, les méthodes de DCA, on peut les faire marcher sur des clusters de taille 8, 16, 32, je ne sais plus jusqu'à combien on était allé. Et le résultat est ici, jusqu'à 64 en fait, 64 sites. Donc ça c'est quand même assez massif. Et donc ce que vous voyez ici, c'est la self-énergie à la première fréquence de Matsubara en fonction de K dans la zone de Brillouin, donc en suivant un trajet qui part de 0,0, pi 0, pi pi, 0,0. Donc en suivant ce trajet-là. Donc là, vous allez vers les antineux, et puis là, vous traversez le nœud. Et donc ça, c'est la partie imaginaire de sigma qui est négative, moins im sigma, c'est le scattering rate. Et donc ce que vous voyez ici, c'est que ça, c'est la courbe de Monte Carlo diagrammatique en violet. Et donc vous voyez clairement qu'il y a un scattering rate qui est beaucoup plus grand aux antineux qu'aux nœuds, qui va être par là. Il y a une différenciation d'à peu près 50% entre les deux. Et vous voyez ici, en trait discontinu, les résultats de DCA 64 sites, donc qui patchent la zone de Brillouin en un certain nombre de régions. Chaque point, c'est la valeur de la partie imaginaire de la self-énergie calculée pour certains des patchs. Et pour la valeur de l'antineux, qui est la plus intéressante, on montre ici l'extrapolation. Ah non, pardon, chacun des points ici, c'est l'extrapolation à cluster infini. Et puis ici, je vous montre explicitement 16 sites, 32 sites, etc., et son extrapolation à cluster infini. Vous voyez qu'on tombe exactement sur le Monte Carlo diagrammatique. Hein. Et donc là, on peut dire qu'on a vraiment calculé, beyond doubt, la self-énergie du modèle de Hubbard dans ce régime qui est déjà un régime difficile et qui révèle déjà l'onset au moins d'un pseudo-gap, c'est-à-dire une différenciation forte entre les nœuds, où il y a des quasi-particules, et les antineux, où elles sont supprimées par cette grande partie imaginaire. Voilà. Depuis, il y a aussi des calculs qui ont montré que dans ce régime, la longueur de corrélation magnétique était effectivement faible. Donc on est dans un régime où on commence à ouvrir un pseudo-gap, dans un régime où la longueur de corrélation est petite. Hein. Tout à fait différente de ce que j'expliquais dans le cours précédent. L'INSET qui est là vous montre aussi, qui est grossi en fait dans le slide suivant, vous montre aussi que, à la différence du régime de couplage faible, il n'y a pas de physique des hotspots dans ce régime. C'est-à-dire que si vous faites le même calcul au hotspot, c'est-à-dire au point d'intersection de cette surface de Fermi, parce qu'il y a un T', la surface de Fermi est de type trou, bien qu'on soit dopé en trou, elle est centrée sur pi pi, donc il devrait y avoir un hotspot ici, qui est l'intersection avec la zone de Brillouin antiferromagnétique, et vous voyez que néanmoins, la partie imaginaire de sigma est plus petite au hotspot qu'à l'antineux pi 0. Donc en tout cas, dans ce régime de température, il n'y a pas de hotspot qui se développe, ce qui vous montre que l'analyse, disons, une analyse de type couplage faible ne s'applique pas vraiment. Voilà, ça c'est l'extrapolation en fonction de la taille du cluster. Et cette courbe-là, on ne l'a jamais publiée en fait. C'est un peu, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, elle est là sur la slide. Voilà. Depuis, ce calcul a été poussé encore d'un cran au-delà. Grâce aux méthodes de Monte Carlo diagrammatique, Riccardo Rossi, Fedor, Simkovic et Michel ont réussi à pousser ce calcul jusqu'à des températures. Dans nos calculs avec Weiwu, c'était T sur T égale 0,2. Là, c'est 0,1. Je crois que c'est un petit peu l'extrême qui peut être fait dans ce régime. En fait, ce calcul a permis de montrer qu'on était quand même dans un régime juste au bord de la formation du pseudo-gap. On ne peut pas dire que la différenciation nœud-antineux s'aggrave énormément quand on passe de bêta 5 à bêta 10. Et on aimerait évidemment pouvoir faire ces calculs dans un régime de couplage plus fort. Alors, toujours dans l'esprit d'essayer de comprendre d'où vient cette physique, je vous renvoie au séminaire de Thomas Schaeffer. On peut, dans le contexte de ces méthodes de Monte Carlo diagrammatique, comme dans le contexte DCA, mais avec évidemment beaucoup plus de résolution en K dans le contexte du Monte Carlo diagrammatique, on peut faire l'analyse de fluctuations, du diagnostic de fluctuations dont Thomas vous a parlé. Et c'est ce qu'on a fait Donc c'est cet article pionnier qui a lancé cette méthode, et on l'a appliqué dans le contexte du calcul précédent. Donc ça, c'est les résultats de ces auteurs sur du DCA, qui je crois était du DCA 8 sites, qui montrait que la physique du pseudogap était dominée par le canal de spin et les fluctuations autour de pipi, donc les fluctuations commensurables au vecteur de l'antiféromagnétique magnétique. Et avec la meilleure résolution des calculs de Monte Carlo diagrammatique, on peut appliquer les mêmes diagnostics de fluctuation. Et ça, ça vous montre les vecteurs d'ondes Q qui, dans cette décomposition dont a parlé Thomas dans son séminaire, qui contribuent à la self-énergie. Et donc, vous voyez qu'au nœud, les contributions, c'est tout simplement les vecteurs Q qui connectent un point sur la surface de Fermi avec un autre point sur la surface de Fermi. Donc, vous retrouvez ici ces vecteurs Q. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'aux antineux, ce n'est pas ces vecteurs Q-là, les vecteurs Q qui dominent, ce n'est pas surface de Fermi à surface de Fermi, c'est les vecteurs, c'est le vecteur pipi. Donc, c'est vraiment les fluctuations centrées autour de pipi qui dominent la self-énergie dans le canal de spin. Et si vous faites la même analyse dans le canal de charge, dans le canal particule-particulière, il n'y a pas du tout de dominance d'un type de fluctuation particulier. Donc, si vous voulez, disons, faire sens d'une analyse en termes de fluctuation, il faut vraiment regarder le canal de spin, et c'est les fluctuations antiferromagnétiques commensurables qui sont responsables de l'apparition du pseudogap. Voilà un petit peu l'état des progrès les plus récents sur ce sujet. Il y a d'autres choses qui se préparent, intéressantes, en particulier en Monte-Carlo diagrammatique. Mais je pense que ces travaux montrent de manière tout à fait claire, 20 ans de travaux sur cluster d'MFT et puis ces travaux de Monte Carlo diagrammatique et leur réunion montrent clairement que la physique du pseudogap en couplage fort, il est lié aux corrélations antiferromagnétiques, aux corrélations commensurables à haute température. On a vu qu'à haute température, le pic des fluctuations était commensurable de toute façon, était pipi, que déjà dans ce régime, ces fluctuations, même quand elles avaient une longueur de corrélation courte, créer un pseudogap. Donc je crois que c'est ça la conclusion générale de tout ça. Alors, si on veut rentrer un petit peu plus dans les détails de comment ça marche, un petit peu plus, disons, dans l'analyse théorique, en particulier de la self-énergie aux antineux, bien on s'aperçoit qu'il y a une physique assez intéressante, il y a les manifestations assez intéressantes de ce pseudogap, qui est l'existence essentiellement d'un pôle dans la self-énergie. Alors ça, ce n'est pas tellement étonnant, parce que si vous voulez supprimer la densité d'état à basse fréquence, ça c'est un plot de la densité d'état aux antineux pour un certain régime de paramètres prolongé analytiquement sur l'axe des fréquences réelles, donc vous voyez le pseudogap ici, pour créer ce pseudogap, il faut bien que la partie imaginaire de sigma soit grande, c'est ça qui tue le poids spectral. Effectivement, ce que vous voyez quand vous calculez la partie imaginaire de sigma aux antineux, c'est qu'il se développe un pôle. Là, on a fixé ce pôle, le moment à pi 0, donc ce pôle n'est pas nécessairement à fréquence nulle, hein, il est à une certaine fréquence qui dépend de T'. Et assez tôt, dans ce domaine, en fait, il est apparu que, à cause de la présence de ce pôle ou de ce quasi-pôle dans la self-énergie, la reconstitution de la self-énergie par interpolation dans la zone de Brillouin était quelque chose de compliqué et qu'il valait mieux en fait interpoler non pas sigma mais 1 sur oméga moins sigma, ce qu'on appelle le cumulant. Et voilà un petit peu certains articles qui ont débuté ça, en particulier Tudor Stanesco, collaboration avec Kotler Rodgers, ont beaucoup insisté sur la nécessité d'utiliser ces interpolations de cumulants pour reconstituer la self-énergie. Et ça a été repris par pas mal de groupes. Ça, c'est un résultat du groupe japonais de Masai Mada, groupe de Tokyo. Et voilà un petit peu ce qu'on voit quand on fait ces reconstitutions en cumulants basées sur des méthodes de cluster d'MFT. Ce qu'on voit, c'est que la self-énergie développe en fait des lignes la fonction de Green développe des lignes de zéro des lignes de pôle qui correspondent à la surface de Fermi, donc qui seraient, disons, ici, lignes en blanc. Mais la self-énergie développe un pôle qui correspond à zéro dans la fonction de Green. qui est cette ligne noire ici, qui se développe d'abord près de pipi, et puis qui, quand on augmente le dopage, a une certaine tendance à bouger en dopage, mais finalement pas tant que ça. Et donc il y a à la fois dans la zone de Brillouin des singularités de G et des singularités de 1 sur G, si vous voulez. Des pôles et des zéros pour la fonction de Green. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce que si vous pensez au théorème de Luttinger, le théorème de Luttinger, il compte les singularités de G, mais aussi bien les pôles que les zéros. Donc on peut imaginer satisfaire formellement le théorème de Luttinger, comme l'a suggéré Dzialoginski il y a pas mal d'années, mais avec une surface de Fermi, qui est seulement la ligne des pôles de G, qui n'est pas le volume donné par la concentration électronique. Donc une surface de Fermi reconstruite, mais quand même, à la cause de l'existence de pôles dans la self-énergie, un théorème de Luttinger satisfait. Bon, j'ai malheureusement pas le temps de vous parler beaucoup plus de ça ici, je mentionne juste pour les gens que ça intéresse, c'est de toute façon encore un peu spéculatif, cette question-là, mais c'est sûrement une question intrigante en rapport avec la reconstruction de la surface de Fermi sans brisure de symétrie. Alors une autre chose sur laquelle je veux insister, c'est le fait que dans tous ces calculs, il y a une chose qui apparaît, alors là de manière extrêmement claire, c'est qu'il y a vraiment un crossover extrêmement abrupt, et peut-être même une transition entre le régime de couplage faible et le régime de couplage fort. Donc vous voyez ici un calcul qui est du DCA 8 sites, mais on voit la même chose en fait. Enfin, en tout cas, on voit des signes de ça en Monte Carlo diagrammatique aussi. Donc ce qui est représenté ici, bon, par exemple, c'est la partie imaginaire de la self-énergie en rouge, en fonction de U, aux antineux, à la première fréquence de Matsubara. Et vous voyez ici, il y a un régime où U est petit, enfin pas petit, il va jusqu'à 5 et quelques, où en gros il ne se passe pas grand-chose, et puis il y a un régime où la partie imaginaire explose. Et pareil, si vous regardez cet indicateur-là, qui est tout simplement epsilon de K plus sigma de K est 0, donc l'énergie renormalisée aux antineux, vous voyez que c'est quelque chose qui est essentiellement indépendant de U, ce qui signale une très faible déformation de la surface de Fermi, et puis tout à coup, autour du U dont je parlais tout à l'heure, 5,5, quelque chose comme ça, cette quantité change complètement. Vous pouvez faire ça pour à peu près toutes les observables, et ceci sépare vraiment deux régions, une région où la surface de Fermi est pratiquement inchangée, il n'y a pas de pseudo-gap à U faible, et puis une région à U fort où le pseudo-gap apparaît très brutalement. Donc ça, c'est disons, une indication numérique qu'il y a vraiment deux régimes très différents, qui sont un régime de couplage faible et un régime de couplage fort. C'est un problème qui n'est pas encore complètement compris, loin de là. Est-ce qu'il s'agit d'une vraie transition ou est-ce qu'il s'agit d'un crossover abrupt? Mais enfin, c'est clair que numériquement, il y a deux régimes. Il y a un régime de couplage faible et un régime de couplage fort, et ce n'est pas une douce transition adiabatique entre les deux. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en fonction du couplage. Il y a aussi quelque chose dont je vais vous parler qui est une relation intéressante entre la manière dont la surface de Fermi est déformée par les interactions et le pseudo-gap. Donc ça, j'ai essayé de résumer ça dans ce transparent-là, et puis je vais probablement pas vous entrer trop dans les détails, mais juste pour vous donner un petit peu une idée. Donc ça, c'est toujours des calculs DCA 8 sites extrapolés à basse température, et ce que vous avez sur l'axe vertical, c'est T' sur T, en fait, bien sûr, et le dopage entre eux. Il y a beaucoup de lignes sur ce diagramme, donc je vais essayer de vous les expliquer, rapidement. Donc, si T' est nul et que je dope en trou, je vais vous faire un dessin ici. Si T' est nul et que je dope en trou, la surface de Fermi sans interaction est une surface de Fermi de type électron, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle est centrée en 0,0 donc ça c'est ma zone de Brillouin, ça c'est la zone de Brillouin antiferromagnétique T lumière. Donc si T' égale 0 et que je dope en trou, ma surface de Fermi va être comme ça. On parle quelquefois de surface de Fermi de type électron. En revanche, si T' est différent de 0, et en l'occurrence ici, disons T' négatif par exemple, à faible dopage, la surface de Fermi va être de type trou, c'est-à-dire qu'elle va être quelque chose comme ça. Et puis quand j'augmente le dopage, il va y avoir un dopage critique où ces deux points se touchent et où je retrouve une surface de Fermi de type électron. Donc dans le système sans interaction, il y a une ligne dans le plan T' dopage où on passe d'une surface de Fermi de type trou à bas dopage à une surface de Fermi de type électron, si vous voulez, centrée à pipi à basse dopage, à centrée en 0,0 à haut dopage. Cette ligne, c'est la ligne pointillée bleue. Donc ça s'appelle aussi une transition de Lifshitz, c'est-à-dire c'est une transition de la topologie de la surface de Fermi qui passe en dessous de cette ligne d'une surface ouverte, centrée sur pipi, à une surface fermée, centrée sur 0,0, ici. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le système sans interaction. Alors ce qu'on trouve, c'est que dans le système avec interaction, donc ça, c'est U égale 7, donc c'est un régime de couplage fort, eh bien, si on essaye, avec les diagnostics qu'on a en DCA, c'est-à-dire en suivant seulement quelques impulsions dans l'espace K, si on essaye de suivre l'endroit où se passe cette transition de topologique, cette transition de Lifshitz, eh bien, vous voyez, c'est la ligne bleue en trait continu qui se confond avec la ligne noire ici, mais il y a une ligne bleue là. Et vous voyez qu'elle est considérablement décalée en présence d'interaction par rapport à la ligne sans interaction. Ce qui veut dire que si vous prenez T' égale 0 et que vous dopez le système en trou, vous devriez, du point de vue du système libre, trouver une surface de type électron, comme ceci. Mais en réalité, la surface du Fermi du système en interaction reste de type trou jusqu'à ce point, dopage critique de l'ordre de 10%, disons ici, où elle va finalement passer du côté electron-like. Donc ça veut dire qu'il y a une très forte déformation de la surface de Fermi par les interactions. Et c'est quelque chose qui a été sous-apprécié pendant des années dans le domaine des cuprates supraconducteurs, où beaucoup de gens disaient, mais en réalité, si vous comparez la surface de Fermi mesurée en ARPES à la structure de bande, eh bien, ces deux surfaces sont très proches, et donc il y a très peu d'effet de déformation de la surface de Fermi par les interactions. Et alors, ceci, effectivement, est correct pour beaucoup de cuprates, parce qu'ils ont des T' assez grands. Donc on est ici, vous voyez que ces deux lignes sont très proches l'une de l'autre. Mais ce n'est pas du tout une raison pour en tirer une conclusion générale sur le modèle de Hubbard du point de vue théorique, et en particulier si T' est beaucoup plus petit, eh bien ça ne va pas être le cas, tout au moins ces résultats. Donc on aurait une forte déformation de la surface de Fermi par les interactions et une tendance à générer une surface de Fermi de type trou quand la surface de Fermi libre devrait être de type électron. Et effectivement, c'est intéressant de voir qu'il y a des familles de cuprates qui ont des T' sur T plus petits, comme LSCO, qui ont des familles de T' sur T plutôt autour de 0,15, donc ici, et où, pour faire coller la surface de Fermi mesurée en ARPES à la structure de bande, les gens qui font l'analyse changent T' sur T en fonction du dopage pour que les deux choses collent. Mais en réalité, c'est le signe évident qu'il y a une déformation de la surface de Fermi par les interactions. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il existe un régime ici, à T' relativement faible, où l'apparition du pseudo-gap, qui est la ligne noire, donc je vous ai montré tout à l'heure que le pseudo-gap, c'était un phénomène abrupt, et là, effectivement, il y a une ligne où on peut analyser l'existence ou non d'un pseudo-gap dans les calculs, Et on voit qu'il y a un régime où le changement de topologie de la surface de Fermi et la disparition du pseudo-gap coïncident. Et puis à plus grand T', ces deux choses sont différentes. Le pseudo-gap disparaît avant que la surface de Fermi ne change de trou à électrons. Ça, c'est la signification de la ligne noire, c'est l'existence du pseudo-gap. Alors ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'effectivement, quand on est à l'T' pas trop grand, on doit observer la disparition du pseudo-gap au même endroit que la transition topologique, la surface de Fermi. Et c'est ce qu'on voit effectivement dans les matériaux de la famille LSCO. Par contre, quand on va à des matériaux de type YBCO où T' est plus grand, eh bien, le pseudo-gap disparaît bien avant le changement topologique de la surface de Fermi. Donc c'est cohérent avec cette observation-là. Et il y a aussi une observation qui est générale dans la physique des cuprates, c'est qu'on n'observe jamais de pseudo-gap quand la surface de Fermi mesurée en ARPES est de type électron, c'est-à-dire excentrée en 0,0, comme ça. Et effectivement, ça, c'est cohérent avec ce diagramme, puisque vous voyez que dans tout le régime où le pseudo-gap existe, qui est ici, eh bien, la surface de Fermi est effectivement de type trou. Ici, il existe un régime où la surface de Fermi est de type trou, mais où il n'y a pas de pseudo-gap, mais il n'y a nulle part dans ce diagramme une surface de Fermi du vrai système en interaction de type électron et qui aurait aussi un pseudo-gap. Voilà, donc il y a une relation intéressante entre cette question du changement de la topologie de la surface de Fermi et le pseudo-gap. Et en fait, cette relation, elle est liée à l'existence de ce pôle dans la self-énergie, puisque l'existence d'un pôle dans la self-énergie par Kramers-Kronig donne aussi une valeur importante à la partie réelle de sigma qui est responsable de la déformation de la surface de Fermi. Donc en fait, ces deux aspects sont liés. Voilà. Alors, on peut pousser les comparaisons entre ces calculs et les expériences, et ça, c'est quelque chose qui s'est pas mal développé aussi dans les années récentes, avec en particulier la capacité dans ces méthodes de calculer des fonctions de réponse à deux particules, et pas seulement, comme je vous ai montré jusqu'à maintenant, des self-énergies ou des fonctions de Green. Donc, on a pu, dans les années récentes, faire des calculs, en particulier le groupe d'Emmanuel Gull et Landy Millis ont fait des très beaux calculs des fonctions de réponse à deux particules. Et donc, voyez par exemple un calcul du night shift en fonction de la température qui vous montre bien que le night shift a un beau maximum dans le régime pseudo-gap. Je vous rappelle les expériences que j'ai mentionnées tout à l'heure. Bon, alors, évidemment, on a déjà beaucoup dépassé l'heure. Donc, je vais essentiellement m'arrêter. Voilà un petit peu le message emporté chez vous sur la physique du pseudo-gap. Toutes ces analyses suggèrent qu'il y a un pseudo-gap en couplage fort, qu'il n'est pas lié à une longueur de corrélation très grande, mais qu'il est fondamentalement lié aux corrélations magnétiques de portée courte, donc qu'il n'est pas lié à la physique de paires préformées ou à ce qui se passerait dans le canal de charge comme une onde de densité de charge. Et si vous voulez, tout ça, ça suggère un petit peu une image qualitative qui sort aussi de l'ensemble de ce cycle de cours. Je vous ai parlé dans les cours précédents de stripes et d'ondes de densité de spin incommensurables. Et puis là, dans ce cours, je vous ai parlé du régime de plus haute température où les corrélations sont commensurables. Et donc, ceci suggère à bas dopage, si vous voulez, une image qualitative qui est qu'à haute température, on a des corrélations de spin à pipi qui peuvent être de courte portée en couplage forte, mais suffisantes pour ouvrir un pseudo-gap dans le spectre par ce mécanisme de couplage fort. À plus basse température, il est tout à fait vraisemblable, en fonction des différents calculs que je vous ai montrés dans les cours précédents, que ces corrélations magnétiques puissent devenir incommensurables. Et puis finalement, à très basse température, il y a d'autres ordres qui apparaissent, comme les ordres de stripes, les ordres d'ondes de densité de charge, voire de la séparation de phase. On a vu que ces ordres apparaissaient dans à peu près tous les calculs, y compris des MFT d'ailleurs. Et c'est également le type d'image qui ressort de calculs récents qui utilise ces méthodes de type Metz dans le contexte des calculs de type réseau de tenseurs d'émergé, et dont vous parlera Alex Vitek lors du séminaire de jeudi, où on voit ces crossovers entre ces différents régimes, depuis un régime Stripe, un régime incommensurable, un régime commensurable avec pseudo-gap, donc par une troisième classe de méthodes qui n'ont rien à voir avec les deux dont j'ai parlé aujourd'hui. J'aurais bien aimé vous parler un peu de supraconductivité, je n'ai pas le temps, donc je vous renvoie à cet article, qui est le plus récent, je dirais, sur le sujet, qui fait le point sur l'existence de la supraconductivité dans le modèle de Hubbard pur à T' égale 0, et qui conclut que les phases supraconductrices sont pas loin en énergie, mais quand même perdent par une toute petite quantité de l'ordre du Hopping sur 100 par rapport aux phases de Stripes. Et donc la grande question ouverte, c'est qu'advient-il à cette compétition à T' non nul? Il y a des équipes qui travaillent là-dessus actuellement. Est-ce qu'à T' non nul, on arrive à donc je n'ai pas le temps de vous passer ces slides-là, mais on sait que T' est important. Voilà un article récent d'EMRG qui le montre. On aimerait beaucoup savoir si la phase supra-D existe dans le modèle de Hubbard à T' fini. Je pense qu'on aura la réponse à cette question dans les deux ans qui viennent, en croisant tous ces différents types de méthodes. Voilà, donc pour conclure un petit peu ce cycle de cours, j'espère vous avoir convaincu que le modèle de Hubbard reste un modèle qui est un petit peu l'icône du problème quantique à n corps. Il reste un problème très difficile à deux dimensions en couplage fort, mais néanmoins, il y a suffisamment de progrès qui ont été faits dans les 20 dernières années, et en particulier dans les 5 ou 10 dernières années, pour dire qu'il est quand même clairement établi, je pense maintenant, qu'un certain nombre des aspects cruciaux de la physique des cuprates est bien pris en compte par le modèle de Hubbard bidimensionnel, à la fois en régime de couplage faible pour les cuprates dopés en électrons ou en couplage fort pour les cuprates dopés en trous. Il reste évidemment un certain nombre de questions importantes ouvertes que j'ai essayé de résumer sur ce transparent. Et donc l'existence de supraconductivité à T' fini, exactement comment cette différenciation nœud anti-nœud se prolonge à basse température, est-ce qu'il y a vraiment une reconstruction à l'absence de briseur de symétrie quand on supprime la supra, et également toute la question du métal étrange, du métal planckien, et j'aborderai cette question-là dans un contexte complètement différent qui n'est pas le modèle de Hubbard, mais qui sont ces modèles de Sage-Lefier-Kitaïev dans le cours de 2022, qui s'appelle les métaux étranges au trou noir, parce qu'en fait, il y a une connexion entre ces modèles SYK et certains aspects de gravitation quantique. Et même si ce n'est pas mon domaine, j'essaierai d'en parler un petit peu dans au moins un cours l'année prochaine. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à venir écouter le séminaire online de Miles Studenmayer et Alex Vitek jeudi.